Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, je vous propose de découvrir le dernier roman de Bernard Schlink, La petite fille, paru chez Gallimard en 2023 et traduit de l'allemand par Bernard Lortolari. Il rentrait chez lui. Il était 10 heures. Le jeudi, il ne fermait pas la librairie avant 9 heures. Et quand à 9h30, il avait abaissé les rideaux de fer des vitrines et de la porte, il prenait le chemin qui traversait le parc en une demi-heure, plus long qu'en empruntant les rues, mais après une longue journée, cela lui faisait du bien. Le parc était ensauvagé, les parterres de rosiers envahis par le lierre. Les haies de Troène n'étaient pas taillées, mais cela sentait bon le rhododendron ou le lilas, le tilleul ou le vernis de Chine, l'herbe fauchée ou la terre humide. C'était son itinéraire, hiver comme été, que le temps fût beau ou mauvais. Quand il arrivait chez lui, il était débarrassé des soucis et des contrariétés de la journée. Il habitait avec sa femme au premier, à l'étage noble d'un immeuble Art Nouveau, acheté peu cher des dizaines d'années plus tôt, et qui depuis lors avait pris de la valeur et leur garantissait d'avance une bonne retraite. Le large escalier, sa rampe courbe, le décor en stuc représentant une beauté nue dont l'immense chevelure cascadait d'un étage à l'autre, il aimait entrer dans cet immeuble, gravir le premier escalier et ouvrir d'un tour de clé la porte au vitrail de fleurs multicolores. Même sachant ce qui l'attendait. Dans l'entrée, le manteau de Birgit était par terre et deux sacs de provisions étaient renversés. La porte donnant sur le séjour était ouverte. L'ordinateur de Birgit, comme la couverture de laine qu'elle aimait disposer sur elle, était tombé du divan. À côté de la bouteille, le verre de vin rouge s'était renversé en éclaboussant la moquette. Une chaussure était près de la porte, l'autre près du grand poêle en faïence. Birgit avait dû s'en débarrasser comme souvent en les envoyant promener. Il accrocha son manteau dans la penderie, posa ses chaussures à côté de la commode et alla dans le séjour. Il découvrit alors que le vase de tulipes aussi avait été flanqué par terre. Ses débris et les fleurs fanées baignaient dans l'eau au pied du piano à queue. Du séjour, il alla à la cuisine. À côté du micro-ondes était posé l'emballage vide d'un riz au poulet. Dans l'évier, il vit l'assiette de Birgit à moitié pleine et la vaisselle du petit-déjeuner prise ensemble. Il laverait tout ça, essuierait et rangerait. Il resta debout, éprouvant sa colère dans le ventre et dans les mains. Mais c'était une colère fatiguée. Il l'avait sentie trop souvent venir et passer. Aussi bien, que voulait-on qu'il fasse? Si le lendemain il affrontait Birgit avec colère, elle le regarderait d'abord avec honte et défi, puis se détournerait en réclamant qu'on lui fiche la paix. Elle avait juste bu un peu. Une fois de plus, n'avait-elle pas le droit de boire un peu? Et la quantité était son affaire. Si ça le dérangeait, il n'avait qu'à partir. Ou alors, elle fondrait en larmes, s'accuserait et s'humilierait jusqu'à ce qu'il la console. Il l'aimait, elle allait bien, tout allait bien. Il n'avait pas faim, il se contenta du reste de riz au poulet. Il le réchauffa dans le micro-ondes et le mangea assis à la table de la cuisine. Puis il rangea les achats dans le frigo, ramassa dans le séjour la bouteille de vin, le verre, les débris du vase et les fleurs fanées, les apporta dans la cuisine, épongea l'eau humecta de jus de citron les taches de vin rouge sur la moquette, referma l'ordinateur, plia la couverture de laine et fit la vaisselle. Une petite pièce, autrefois garde-manger et aujourd'hui buanderie, était attenante à la cuisine. Il y transféra dans le sèche-linge le contenu du lave-linge et le remplaça par celui de la corbeille de linge sale. Il fit chauffer de l'eau, se prépara du thé et s'assit à la table de la cuisine pour en boire une tasse. C'était un soir comme beaucoup d'autres. Certaines fois, quand Birgit avait commencé tôt à boire, il y avait par terre plus que 2 sacs de provisions, 1 verre de vin et 1 vase en miettes. D'autres soirs, où elle était arrivée à la maison peu avant lui, elle n'avait bu qu'un 1er verre et elle était enjouée, bavarde, gentille, et si c'était du champagne au lieu du vin, elle était alors d'une vivacité qui le rendait à la fois heureux et triste, comme tous les bons moments dont on sait qu'ils sont trompeurs. Ces soirs-là, ils allaient au lit ensemble. Sinon, quand il rentrait, elle était déjà couchée, ou bien elle gisait sur le divan ou par terre, et il la portait au lit. Ensuite, il s'asseyait sur le tabouret devant la coiffeuse et il la regardait. Le visage ridé, la peau fanée, les poils des narines, la salive au coin de la bouche, les lèvres gercées. Parfois ses paupières clignaient, ses mains faisaient des gestes vagues, elle disait des mots dénués de sens, elle gémissait ou soupirait. Elle ronflait, pas au point de l'empêcher de dormir lorsqu'il finissait par se coucher à côté d'elle, mais assez fort pour qu'il eût des difficultés à trouver le sommeil. Il avait aussi du mal à supporter son odeur. Elle sentait l'alcool et les aigreurs d'estomac, et parfois son haleine lui rappelait les boulettes d'antimite que sa grand-mère mettait dans ses armoires. Quand il arrivait, par bonheur rarement, qu'elle vomisse dans le lit, il ouvrait grande la fenêtre, s'arrêtait de respirer en nettoyant le corps, le lit et le sol, et allait reprendre son souffle à la fenêtre. Mais jamais il ne manquait de faire une pause sur le tabouret. Il la regardait et voyait dans ce visage ravagé le visage intact des bons moments, qui selon les humeurs diverses pouvaient avoir des expressions si différentes qu'il en était parfois déconcerté. Mais toujours, même mal réveillé, épuisé ou bougon, ce visage était plein de vie. Comme il était sans vie lorsqu'elle avait bu. Quelquefois transparaissait aussi dans le visage actuel ces visages du passé, l'air décidé de l'étudiante à la chemise bleue, l'expression de la jeune libraire, prudente et réservée au point d'être pour lui souvent une énigme et un charme, son visage une fois qu'elle avait trouvé le chemin de l'écriture, concentrée comme si elle réfléchissait sans cesse à son roman, ou qu'elle n'arrivait jamais à se l'ôter de la tête. Son visage rose, quand, ayant appris très tard à apprécier le vélo, elle rentrait après avoir pédalé pendant 1 heure ou 2. Elle avait un visage vieux. Elle était vieille. Mais ce visage, bien à elle, était celui qu'il aimait, auquel il voulait parler et qui devait lui parler. Celui dont les yeux marrons si chaleureux lui réchauffaient le cœur, dont le rire lui donnait envie de rire, qu'il avait besoin de prendre entre ses mains et d'embrasser, qui lui l'attendrissait. Elle l'attendrissait. Sa recherche d'une place dans la vie, le secret dont elle entourait son écriture, son rêve d'un succès tardif, sa maladie de l'alcool, le plaisir qu'elle prenait avec les enfants et les chiens, tout cela contenait beaucoup d'inaccompli, d'impossible à accomplir, et qui lui l'attendrissait. La tendresse était-elle une forme mineure de l'amour? Peut-être, si elle était tout. Pour lui, elle n'était pas tout. En se levant du tabouret, il n'était pas en paix avec lui-même. Il ne cessait de souhaiter que les choses changent, mais il était calme. C'était comme ça. Voilà tout. Il alla dans le séjour, s'assit sur le divan et lut les livres qui venaient de paraître. C'était à cause de ce flot intarissable de nouveautés qu'il était devenu libraire. Mais ce soir-là, lorsqu'il alla dans leur chambre pour s'asseoir auprès d'elle, elle n'était pas dans le lit. Il revint dans l'entrée et gravit l'escalier qui montait vers la chambre de Bonne, se trouvant au-dessus de la cuisine. La pièce était étroite et basse de plafond. La fenêtre était petite et donnait sur la cour, mais Birgit aimait bien se réduire sans hauteur. Elle aimait les deux portes, l'une en bas de l'escalier et l'autre en haut, et elle avait fait le choix de cet endroit pour écrire. Il frappa. Birgit ne voulait pas être dérangée, et encore moins surprise par lui. N'obtenant pas de réponse, il ouvrit la porte. Le bureau était en ordre, à gauche une pile de papier, à droite le stylo qu'il lui avait offert voilà des années. À côté de la fenêtre était épinglé un bout de papier manuscrit de sa main. Il savait qu'il n'était pas censé le lire. Il n'en lut pas davantage. Il trouva Birgit dans la salle de bain. Elle était allongée dans la baignoire, la tête sous l'eau, sa chevelure sombre sur le bord de la baignoire. Il lui souleva la tête. L'eau était froide. Elle devait être là depuis des heures. Il l'attira assez pour que sa tête repose sur le bord. Dans une baignoire moderne, elle n'aurait pas pu glisser ainsi sous l'eau. Pourquoi n'avait-il pas une baignoire moderne? Ils avaient tous deux apprécié le luxe de cette profonde et longue baignoire Art Nouveau. Ils aimaient l'occuper ensemble et sa restauration avait été coûteuse. Debout, il parcourut Birgit des yeux, regarda ses seins, le gauche un peu plus gros que le droit, son ventre avec la cicatrice, ses bras et ses jambes étendus, ses mains qui, le dos vers le haut, semblaient flotter sans toucher le fond. Il se rappela son envie, souvent exprimée mais jamais réalisée, de se faire réduire le sein gauche. Se rappela sa peur lorsqu'elle eut une appendicite et qu'il fallut l'opérer. Se rappela son jeu au piano, que ses longs doigts n'auraient pas dû abandonner. La regardant ainsi d'en haut, il sut qu'elle était morte. Mais en même temps, il eut l'impression qu'il pourrait plus tard lui raconter qu'il l'avait trouvée morte dans la baignoire et en parler avec elle. Comme si sur le moment, elle était bien morte, mais pas pour longtemps, pas pour toujours.
Thank you.
À voix haute, Meredith Ledez.
Il fallait qu'il appelle les secours. Mais il n'y avait aucun secours à donner, rien ne pressait. Et il redoutait l'agitation, les ambulances avec leurs sirènes et leurs gyrophares bleus s'arrêtant devant la maison, les brancardiers avec leurs civières, la police qui chercherait des empreintes et l'interrogerait, le concierge curieux surgissant de son sous-sol. Il s'assit sur le bord de la baignoire. Heureusement que Birgit avait fermé les yeux. S'ils avaient été ouverts et qu'elle eût fixé sur lui un regard vide, quelle horreur! Ça aurait été le cas si elle avait eu un infarctus ou une attaque cérébrale. Non, elle s'était endormie, tout simplement. Avait-elle juste trop bu? Ou avait-elle en plus pris quelque chose? Il se leva, alla voir dans l'armoire à pharmacie, ne trouva pas le Valium à sa place habituelle et ouvrit du pied le couvercle d'une petite poubelle. La boîte en carton et le feuillet d'aluminium y étaient, vides. Combien de comprimés y avait-il eu là? Combien Birgit avait-elle pu en prendre? Voulait-elle seulement être sûre de dormir ou voulait-elle ne plus se réveiller? Il se rassit sur le bord de la baignoire. « Que voulais-tu, Birgit ?» Il était au courant de sa dépression depuis des années. Il avait sans cesse voulu l'envoyer chez un thérapeute ou chez un psychiatre. Il avait des amis qui avaient calmé leur dépression en suivant des thérapies ou les avaient bloquées en prenant des cachets. Mais elle n'avait pas voulu. Elle prétendait qu'elle n'était pas en dépression, que la dépression, ça n'existait pas. Il y avait des gens mélancoliques, il y en avait toujours eu, c'était son cas. Elle ne voulait pas se laisser transformer en quelqu'un d'autre à coups de médicaments. Que tout le monde doive être équilibré et fiable, c'était une aberration de la modernité. Et de fait, même lorsqu'elle n'était pas déprimée, elle était plus réfléchie, plus sérieuse, plus triste que d'autres. Non qu'elle fût incapable de rire d'un fait ou d'une remarque amusante. Mais la légèreté superficielle, la supériorité ironique avec lesquelles, entre amis ou entre collègues, on traitait des livres et des films, de la société et de la politique, voilà qui lui était étranger. Et plus encore le fait que politiques et artistes ne se prenaient pas eux-mêmes au sérieux, ni ce qu'ils faisaient, mais se contentaient de constater que cela suscitait l'attention, qu'elle étonna, fit rire ou dérouta, mais en tout cas que l'attention fut provoquée. Elle, ce qui était sérieux, elle le prenait au sérieux. Ce n'est que tardivement, après la réunification, lorsqu'il connut de plus près des libraires de Berlin-Est et du Brandebourg, qu'il comprit que Birgit était une enfant de la RDA, du monde prolétaire qui, avec une ferveur prussienne et socialiste, voulait devenir bourgeois et prenait culture et politique au sérieux, comme la bourgeoisie l'avait fait jadis et l'avait oublié depuis. Il la regarda dès lors avec d'autres yeux, avec estime et aussi avec la tristesse de voir ce que son monde à lui ne savait plus faire et avait perdu. Non, sa mélancolie ne l'avait pas poussée au suicide. Elle et le vin rouge, encore un verre et encore un autre, l'avaient fatiguée. Alors, elle n'avait pas voulu attendre que le sommeil vienne, elle avait voulu le forcer à venir. Et elle l'avait forcé à se rapprocher et il l'avait abattu. Pourquoi n'avoir pas pu attendre, Birgit? Mais il savait qu'elle était impatiente. C'est pourquoi elle ne prenait pas le temps d'ôter ses chaussures, ni de ranger ses achats, ni de se soucier de cuisiner, de laver, ni du linge. Une mort par impatience. Cela le fit rire, en sanglotant. Il se leva et appela les secours. Puis, il appela la police. Pourquoi attendre que les secours s'en chargent? Il voulait se débarrasser de tout. Cela dura 2 heures. Le service de secours arriva et repartit. La police, 2 hommes en civil et 2 en uniforme, sécurisa le lieu du décès et chercha des indices. Il décrivit aux officiers comment il avait trouvé Birgit. Il expliqua pourquoi il avait rincé le verre où elle avait bu. Il leur montra la boîte et le feuillet d'aluminium dans la petite poubelle, et il les regarda chercher en vain une lettre d'adieu. Ils firent venir une entreprise de pompes funèbres qui enveloppa Birgit dans un sac mortuaire et l'expédia au médecin légiste. Ils lui demandèrent quand il avait trouvé Birgit et ce qu'il avait fait l'après-midi et le soir. Lorsqu'il eut répondu qu'il avait été jusqu'à 9 heures à la librairie, ce que pourraient confirmer des employés et des clients, ils devinrent plus aimables. Pourrait-il se présenter demain dans la journée au poste de police ? Il les raccompagna, referma la porte et mit la chaîne. Il ne savait que faire. Il était incapable de dormir, de lire, d'écouter de la musique. Il aurait voulu pleurer. Il alla dans la buanderie, emporta le linge séché jusqu'à la table de la cuisine et mit dans le sèche-linge ce qui venait d'être lavé. Quand il trouva entre ses mains un t-shirt de Birgit, un qu'elle aimait bien et mettait souvent, il sentit qu'il n'en pouvait plus et il laissa tout tomber. Il monta l'escalier qui conduisait à la petite chambre de Birgit, y entra et s'assit au bureau. Là, il lut jusqu'au bout. « Tu as ce que t'a donné un dieu sévère. » De qui était-ce ? Pourquoi Birgit avait-elle écrit ça ? Pourquoi l'avait-elle affiché ? Qu'est-ce que c'était censé lui rappeler ? Puis il tira vers lui la pile de papier. C'était un manuscrit. Il reconnut le nom de l'auteur. C'était une femme que Birgit avait rencontrée dans un atelier d'écriture. Mais il ne voulait rien lire d'une femme quelconque. Il voulait lire quelque chose de Birgit. Il ouvrit les tiroirs du bureau l'un après l'autre. Dans celui du haut, il y avait du papier vierge, des crayons de toutes sortes, des gommes et des taille-crayons, des trombones et des rouleaux de ruban adhésif. Dans les deux d'en dessous, il trouva des dossiers contenant des feuilles dactylographiées, tantôt quelques lignes, tantôt de longs développements, des petits papiers de la main de Birgit, des lettres, des coupures de presse, des copies, des photographies, des brochures. Les dossiers n'étaient pas étiquetés et leur contenu ne semblait pas ordonné. Mais il connaissait Birgit. La pagaille était trompeuse. Les différents dossiers devaient se référer à différents concepts ou aspects ou chapitres de son roman auxquels ses contenus se rapportaient. Mais il était incapable de se concentrer et de discerner leur ordre. Parmi les dossiers se trouvait une carte postale. Elle reproduisait la belle chocolatière de Jean-Étienne Lyotard qui se trouve à la Gemälde Galerie de Dresde. Il tourna la carte. Elle portait un timbre de RDA et aucun nom d'expéditeur. « Chère Birgit, je l'ai vue récemment. C'est une petite fille joyeuse. Elle te ressemble. Ta peau là. » Il retourna la carte postale et regarda attentivement la belle chocolatière. Il ne put voir aucune ressemblance. Attentive, oui. Birgit pouvait avoir un air attentif, mais pas avec ce nez pointu ni cette bouche en cœur. Et joyeuse, non. De fait, la belle chocolatière n'avait pas un air joyeux. Il se rendit compte que dans l'appartement, il n'y avait aucun portrait de Birgit et qu'il n'y en avait pas non plus sur son bureau à la librairie. Certains de leurs amis avaient chez eux, au-dessus de la commode, une série de photos dans des cadres d'argent et noir, des images de leur mariage, de vacances et d'excursions, de leurs parents, de leurs enfants. Birgit et lui n'avaient pas d'enfants. Et de leur mariage en 1969, dont ils avaient eu un peu honte parce qu'aux yeux de leurs amis c'était un rituel démodé, ils n'avaient pas fait de tralala et il n'y avait pas de photos. Ils ne prenaient pas de photos. Il tira son portefeuille de sa poche et s'assura que la photo du passeport de Birgit, qu'il avait sur lui depuis des années, se trouvait bien encore à côté de son permis de conduire et de sa carte grise. Il la ferait photographier et agrandir. Dans le bureau de Birgit, il ne trouva rien de ce qu'il cherchait. Aucun tiroir ne recelait un manuscrit. Dans le tiroir du bas se trouvait une bouteille de vodka, et tout en continuant ses recherches vaines dans le rayonnage de livres sur le côté de la pièce, il en but. Au petit matin, il s'endormit par terre. Le chant des oiseaux le réveilla bientôt. Sur le moment, il ne se rappela pas ce qui s'était passé la veille. Ensuite vint le souvenir qui inonda d'abord sa tête, puis son corps entier. Enfin, il put pleurer. Il s'écoula des semaines avant qu'il retourne dans la petite chambre de Birgit. Il ne pouvait pas faire disparaître ses affaires, ni les manteaux, ni les robes des armoires, ni le linge de la commode, ni la brosse à cheveux, les flacons et les crèmes de la coiffeuse et de la petite armoire au-dessus du lavabo, ni la brosse à dents dans son verre. Il n'ouvrit pas les endroits où étaient ses affaires, n'ouvrit d'abord même pas la chambre. Qu'un homme puisse, comme il l'avait vu dans un film, enfouir son visage dans les vêtements d'une morte pour en respirer l'odeur, ça le dépassait. Voir ou palper ou sentir ses affaires, c'était plus qu'il ne pouvait supporter. Il souffrait déjà assez de l'environnement où Birgit avait eu sa place et où elle manquait. Il souffrait dans l'appartement et souffrait dans la librairie. Et il songea un moment à se défaire des deux. Mais comme il souffrait aussi quand il se déplaçait, il ne pouvait pas vraiment croire à un nouveau départ dans un lieu nouveau. Birgit l'accompagnerait partout. Elle serait partout autour de lui, sans être là. C'était La Petite Fille, le dernier roman de Bernard Schlink, paru en 2023 aux éditions Gallimard et traduit de l'allemand par Bernard Lortolari. Cette émission était comme toujours réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical le scherzo de La Jeune Fille et la Mort de Schubert, interprété par le quartet Juillard. Quant à moi, je vous souhaite un heureux dimanche soir et je vous dis au prochain week-end pour de nouvelles lectures à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.